terre, elle brille en fait, elle est d'un bleu brillant, elle lui.
Houston, we have a problem.
It's one small step for man. One giant leap for mankind.
L'histoire de l'espace.
Et puis la Terre, c'est immense, on est vraiment tout petit.
En visitant des planètes, nous sommes de nouveau Christophe Colomb, qui découvrons des terres nouvelles, qui jusqu'à présent n'étaient que des petits points de lumière dans le ciel, d'une part, et d'autre part, nous plaçons des engins qui reçoivent les lumières X, gamma, infrarouge, ultraviolet, de toutes les longueurs d'onde. Et ces lumières de toutes les longueurs d'onde nous apportent toute l'information des astres, information que jusqu'à présent nous n'avions pas.
Creating a self-sustaining civilization on Mars would be the greatest adventure ever.
Et voilà, c'est l'heure de votre chronique astro, la 125e de Michel Favré sur Odo Radio. Bonjour Michel.
Bonjour Nicolas.
Comment allez-vous? Ça va? Vous avez passé un bon mois d'août?
À peu près, malgré les chaleurs importantes et malheureusement pas une météo toujours très favorable à l'observation du ciel. Ah. Il y avait des nuages quand il fallait pas.
Ah, et bien peut-être que vous allez pouvoir nous en parler. On va commencer la chronique tout de suite. Alors Michel, aujourd'hui vous allez nous parler de SpaceX pour commencer, qui a enfin réussi un vol d'essai de son Starship.
Oui, je rappelle à nos auditeurs que nous parlons de la plus grande fusée jamais construite par l'homme, car avec le vaisseau Starship d'environ 50 mètres posé sur son premier étage Super Heavy de 71 mètres, l'ensemble de plus de 120 mètres dépasse la Saturne V des missions lunaires Apollo en taille et aussi en masse avec plus de 5000 tonnes au décollage. Mais après une progression positive entre le quatrième essai de juin 2024 et le sixième de novembre, conforme à la méthode de développement itératif de la société d'Elon Musk, consistant à améliorer progressivement le vaisseau au fil des tests, le passage à une nouvelle version pour le septième tir de janvier 2025 a marqué le début d'une série d'échecs, se soldant tous par l'explosion du Starship et même une destruction lors d'un test au sol le 18 juin dernier. Cette série noire semble enfin se terminer avec le dixième essai de cette nuit, même si le tir a dû être reporté à deux reprises. Le Starship devait décoller de la base de Boca Chica au Texas dans la nuit de dimanche, mais le compte à rebours a été stoppé environ un quart d'heure avant le tir, après la détection d'une fuite d'oxygène liquide sur la rampe de lancement, puis l'annulation de la tentative qui devait avoir lieu la nuit suivante, mais cette fois avec une mauvaise météo qui a fait renoncer au tir. C'est la nuit dernière que l'essai a pu avoir lieu et on a pu voir l'énorme fusée décoller à 1h30, heure française, puis les deux étages se séparer environ 2 minutes et demie plus tard. Contrairement au test précédent, il n'était pas prévu que le Super Heavy revienne sur le pas de tir pour être attrapé en douceur, nous privant de cette séquence assez époustouflante, mais il devait aller plonger en douceur dans les eaux du golfe du Mexique. Cette décision avait sans doute été prise pour des raisons de sécurité, car SpaceX souhaitait procéder à un essai de sécurité pendant la redescente en éteignant volontairement l'un des trois moteurs qui doivent la freiner et la contrôler pour vérifier que le relais pouvait être pris par l'un des moteurs de la couronne intermédiaire. Le Super Heavy possède 33 moteurs Raptor disposés sur trois couronnes concentriques. Et tout s'est déroulé comme prévu. De son côté, le Starship a poursuivi son vol suborbital jusqu'à l'extinction de tous ses moteurs pour poursuivre sa trajectoire balistique. Environ 18 minutes après le tir, il a ouvert une porte de sa soute pour procéder à une simulation de déploiement de satellite Starlink avec 8 faux satellites ayant des caractéristiques identiques aux vrais. Il me faut rappeler qu'à côté des grandes ambitions dans le domaine des vols habités, le Starship est un élément crucial pour le déploiement par SpaceX de sa méga constellation de satellites de communication Starlink, car la nouvelle génération, bien plus grosse et lourde que celles lancées actuellement, ne peuvent pas être mises en orbite par le lanceur Falcon 9. L'essai du Starship s'est poursuivi avec un court rallumage d'un de ses moteurs pour démontrer sa capacité dans le futur à les utiliser pour des manœuvres atmosphériques. En orbite, le test s'est terminé comme prévu par la rentrée atmosphérique, phase critique en raison du très fort réchauffement lors de la pénétration à haute vitesse dans l'air, pour venir doucement s'enfoncer dans l'océan Indien au large des côtes australiennes après une redescente contrôlée qui devrait permettre dans le futur un atterrissage en douceur pour être réutilisé. On a pu constater que le vaisseau avait été endommagé lors de sa traversée atmosphérique, mais il est difficile de dire si c'était prévu ou pas, car SpaceX avait volontairement privé l'engin d'une partie des tuiles de protection thermique dont il est partiellement couvert afin de tester la résistance de sa structure à un échauffement anormal.
Et est-ce que ce résultat positif est donc de bon augure pour l'avenir du Starship, notamment pour la reconquête de la Lune ?
Alors effectivement, cet essai semble globalement réussi, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour la société d'Elon Musk, mise sous pression par la série d'échecs désastreux de ces derniers mois. Néanmoins, comme je le répète malheureusement mois après mois, les retards dans sa mise au point mettent sérieusement en péril le calendrier du programme lunaire Artemis de la NASA, puisque c'est une version spécialement modifiée du Starship qui devrait poser les astronautes d'Artemis 3 et 4 sur la Lune, ce qui nécessite de franchir encore bien des étapes avant d'y parvenir, comme le ravitaillement en carburant dans l'espace, indispensable pour lui faire atteindre la Lune, opération qui n'a jamais été tentée auparavant depuis le début de l'ère astronautique. Ensuite, il faudra au moins réussir un alunissage en douceur et un redécollage à vide avant d'oser risquer la vie d'un équipage dans ces manœuvres délicates. Pendant ce temps-là, la Chine continue à progresser vers la réalisation de sa propre mission lunaire habitée, en principe avant 2030. Début août, l'agence spatiale chinoise a publié des photos de son module lunaire, La Nuée, enfin je certifie pas la prononciation du chinois, soit Embrasser la Lune en français, en cours de test dans la province de Hebei. D'une taille et d'une conception comparable au LEM utilisé par les missions Apollo, on le voit suspendu sous un système porteur, probablement pour simuler la faible gravité lunaire, au centre d'une immense structure métallique, probablement d'une bonne centaine de mètres de hauteur, afin de procéder à des tests d'atterrissage, ou plutôt d'alunissage et de décollage. On constate sans surprise que, comme d'habitude, le programme chinois semble suivre son cours dans le respect des calendriers annoncés, et on s'attend à ce que le premier taïkonaute foule le sol lunaire en 2029, année du 80e anniversaire de la fondation de la République populaire et de la prise de pouvoir du Parti communiste dirigé par Mao Tse-tung.
Et d'autres missions spatiales notables ces dernières semaines, Michel ?
Alors même si on peut penser que sa technologie n'est plus à la pointe du progrès face aux lanceurs réutilisables de SpaceX, notre fusée européenne Ariane 6 a confirmé la fiabilité de sa lignée en décollant sans problème de la base de Kourou en Guyane le 13 août dernier. Elle transportait METOP SG-A1, un satellite météo de nouvelle génération d'environ 4 tonnes qu'elle a placé sur une orbite polaire. Équipés d'une dizaine d'instruments différents, ces nouveaux satellites sont destinés à améliorer la précision des prévisions météorologiques en coopération avec ceux du NOAA américain, dont l'administration Trump a lourdement diminué les moyens. Ils doivent également participer à l'observation du changement climatique et on peut se féliciter que l'Europe persévère dans l'étude de cette menace mondiale alors qu'outre-Atlantique, on s'aborde tous les projets spatiaux concernant ce thème sous l'impulsion du climato-sceptique Trump, promoteur des énergies fossiles et du gaspillage énergétique. Et côté américain, il n'y a pas eu que des ratés, puisque l'équipage Crew 11 a pu rejoindre le 2 août l'ISS, Station Spatiale Internationale, à bord d'une capsule Crew Dragon de SpaceX, avec néanmoins un jour de retard, car le lancement prévu le 31 juillet a été annulé environ une heure avant le tir pour des raisons de mauvaise météo et a été reporté au lendemain 1er août. Décidément, la période n'est pas favorable au lancement de SpaceX.
Effectivement, Michel. On en sait un peu plus sur la comète interstellaire qui est en train de traverser le système solaire.
Oui, la dernière fois, j'avais parlé de la comète 3I Atlas, qui n'est que le troisième membre du très petit groupe d'objets interstellaires, c'est-à-dire provenant de l'extérieur du système solaire, connu à ce jour, après 1I Oumuamua de 2017 et en 2019, la comète 2I Borisov. Tout d'abord, sa nature de comète ne fait plus aucun doute, car on voit très nettement sa coma, c'est-à-dire le nuage de gaz et de poussière entourant le noyau avant de former sa queue, sur une photo prise par le télescope spatial Hubble le 21 juillet et publiée le 9 août par l'APOD, Astronomy Picture of the Day, un site de la NASA où on peut facilement la trouver, ainsi que sur la traduction française disponible sur le site Ciel des Hommes. Cette image, prise à une distance de 445 millions de kilomètres, a permis de mieux estimer la taille du noyau en se basant sur le taux d'éjection de gaz et de poussière qui forme cette coma, par comparaison avec les statistiques sur d'autres comètes. Et c'est une surprise, car au lieu des 20 km de diamètre estimés à partir de sa luminosité sur les premières images de la détection début juillet, les astronomes arrivent maintenant à une estimation inférieure à 6 km et qui pourrait même n'être que de quelques centaines de mètres. Par ailleurs, Matthew Hopkins, un étudiant d'Oxford qui fait sa thèse sur les trajectoires des comètes interstellaires, a étudié ce nouvel objet et en le comparant aux statistiques qu'il a établies, il déduit de sa très grande vitesse, plus de 200 000 km/h, qu'elle serait très âgée, entre 7 et 14 milliards d'années, soit plus vieille que notre système solaire lui-même. Cette déduction provient d'un modèle qu'il a établi à partir des données du satellite européen Gaïa pour les étoiles situées dans un rayon de 650 années-lumière autour de nous, en tenant compte de la dynamique de la galaxie et en se basant sur des simulations montrant que ce genre d'objet est éjecté de son système planétaire plutôt au début de sa formation.
Et d'autres découvertes dans le système solaire.
En effet, un 29e satellite est venu rejoindre les 28 déjà connus orbitant autour de la planète gazeuse Uranus, plutôt lointaine car elle orbite presque à 3 milliards de kilomètres du Soleil. C'est sur des images prises le 2 février dernier par le télescope spatial James Webb, une série de 10 poses sur un laps de temps de 6 heures, qu'une équipe américaine a pu repérer ce petit objet de seulement une dizaine de mètres. Cette petite taille explique qu'il est échappé aux caméras de la sonde Voyager 2, qui avait survolé la planète en 1986 et découvert une vingtaine de ses lunes. Comme d'autres petits satellites d'Uranus, il semble être en interaction avec le système d'anneaux de la planète, des anneaux bien trop tenus pour être observables de la Terre, contrairement à ceux de Saturne. Et le 15 juillet dernier, on annonçait la découverte d'un petit corps, numéroté 2023-KQ14, car détecté sur des images prises en 2023 par le télescope japonais Subaru de 8 mètres de diamètre situé à Hawaï. L'objet a été baptisé provisoirement Ammonite par ses inventeurs. La découverte d'un petit corps d'environ 200-300 km de diamètre n'aurait rien de notable si elle ne venait pas bouleverser un autre objectif des astronomes, trouver la 9e planète du système solaire. En effet, des astronomes ayant constaté en 2016 que les orbites de plusieurs objets transneptuniens lointains semblaient regroupées selon une orientation particulière, ils en ont déduit que ce schéma pourrait indiquer la présence d'une 9e planète, bien au-delà de Neptune, planète que l'on cherche à détecter, ce qui est très difficile car elle doit être très peu lumineuse et se déplace très lentement sur le fond étoilé. Mais l'orbite d'Ammonite remet en question cette théorie, où si l'hypothétique 9e planète existe, elle la repousse encore plus loin du Soleil.
Et vous êtes toujours sur Odo Radio dans la chronique 125e chronique astro de Michel Favret. Nous allons tout de suite passer au thème du mois, c'est la Lune.
Oui, alors en raison de la prochaine éclipse de Lune du 7 septembre, dont je parlerai dans quelques minutes dans notre dernière rubrique, le ciel du mois, j'avais naturellement pensé à traiter des éclipses, mais c'est un sujet que j'avais déjà abordé début mars, avant l'éclipse partielle de Soleil du 29 mars. Alors que la dernière fois que j'ai parlé de la Lune remonte à 2021. Et même s'il n'y a rien de fondamentalement nouveau à dire, j'ai pensé qu'il serait pertinent d'évoquer de nouveau notre satellite. Pour commencer à évoquer la Lune, on va essayer de redéfinir les échelles. La Lune est beaucoup plus petite que la Terre, avec un diamètre d'environ un quart de celui de la Terre, dans les 3500 km contre 12800 à l'équateur, si on arrondit à la centaine de kilomètres. Pour donner une image concrète, si la Terre était représentée par un gros ballon de basket, soit dans les 24-25 cm, à la même échelle, la Lune pourrait être représentée par une boule de pétanque. À propos de la forme sphérique des planètes et satellites, et n'en déplaise aux platistes, c'est en observant les éclipses lunaires que les Grecs avaient remarqué que l'ombre de la Terre était ronde. Et en 250 avant Jésus-Christ, donc il y a plus de 2000 ans, Aristarque de Samos avait estimé que la Terre était environ 3 ou 4 fois plus grande que la Lune, en estimant la taille de l'ombre de la Terre par rapport à la Lune. La Lune est le seul satellite naturel de la Terre, donc elle orbite autour de nous. La distance moyenne entre les deux astres est d'environ 380 000 km. À l'échelle du ballon de basket et de la boule de pétanque, ça représenterait dans les 750 mètres, donc la longueur de 7 terrains de foot et demi. Ou pour nos éditeurs qui connaissent certainement Bordeaux et ses quais, si on mettait le ballon de basket représentant la Terre à la fontaine de la place de la Bourse, la boule de pétanque représentant la Lune serait à mettre au bout du pont de pierre, rive droite, près de la statue du Lion Bleu. Cela donne une idée de la distance qui est très grande à l'échelle humaine. D'ailleurs, quand les Américains sont allés se poser sur la Lune dans les années 1970 avec les missions Apollo, il fallait 3 jours pour parcourir la distance Terre-Lune avec leur vaisseau qui allait pourtant très vite, environ 7 fois la vitesse d'un avion de ligne. Et dans le cadre de son programme Artemis, de mission lunaire habitée qui devrait ramener l'homme sur la Lune en 2027, la NASA prévoit pour la capsule Orion, propulsée par le lanceur lourd SLS, un trajet Terre-Lune de 4 jours et autant pour le retour.
Et alors la Super-Lune ?
Alors effectivement, les médias nous parlent périodiquement de Super-Lune, mais il s'agit tout simplement d'une pleine Lune qui nous apparaît plus grosse dans le ciel. En effet, comme on le sait depuis Kepler et Newton aussi, les orbites des planètes autour du Soleil ou des satellites autour des planètes sont des ellipses. Donc la distance entre la Terre et la Lune varie en fait de 360 000 à 400 000 km, ce qui donne une Lune légèrement plus petite ou plus grosse. Mais c'est pratiquement imperceptible à l'œil nu, car il n'y a qu'une différence de 14% de surface en plus pour la super-Lune si chère aux Américains. C'est donc assez insignifiant et on ne le voit réellement qu'en comparant des photos de la pleine Lune prises quand elle est plus ou moins grosse. À l'œil nu, on ne voit rien, car on n'a aucun élément de comparaison. Mais c'est plus important lors des éclipses de soleil, c'est-à-dire quand la Lune passe entre la Terre et le Soleil, en nous le masquant. Car quand la Lune est plus éloignée, donc plus petite, elle n'arrive pas à cacher complètement le Soleil, et cela produit une éclipse annulaire, c'est-à-dire qu'il reste un anneau de Soleil visible tout autour de la Lune. On sait aujourd'hui que la Lune effectue un tour complet autour de la Terre en 27,3 jours, c'est ce qu'on appelle la révolution sidérale, c'est-à-dire en prenant les étoiles comme repère fixe. Mais si on prend comme repère le Soleil, on parle alors de révolution synodique, la durée est de 29 jours et demi, du fait du mouvement de la Terre autour du Soleil. C'est ce qui explique que le cycle des phases de la Lune, qu'on appelle la lunaison, a cette durée, car l'apparence que la Lune a dans le ciel, croissant, quartier, gibbeuse ou pleine Lune, dépend de la portion de Lune éclairée par le Soleil visible de la Terre, donc de la position relative des trois astres, Terre, Lune et Soleil. Ce cycle des lunaisons est inscrit sur nos calendriers, par exemple de la Poste, avec un disque noir pour figurer la nouvelle Lune, puis le premier quartier, une demi-lune bombée à droite, puis un disque clair pour la pleine Lune, et enfin le dernier quartier, une demi-lune bombée à gauche. Les quartiers correspondent à la position où la ligne Terre-Lune fait un angle droit avec la ligne Lune-Soleil, et on voit donc exactement la moitié de la Lune éclairée. On ne peut pas se tromper entre le premier quartier, qu'on voit toujours le soir et en début de nuit, et le dernier quartier, qu'on voit toujours en fin de nuit et le matin. Avec ce petit truc très simple, si on imagine mettre un trait droit le long de la ligne droite du quartier, cela forme soit la lettre P comme premier quartier, ou D comme dernier quartier. La pleine Lune correspond à la position où le Soleil et la Lune sont opposés, de part et d'autre de la Terre, et on voit la Lune complètement éclairée de face, donc toute ronde. La nouvelle Lune est la position inverse, avec la Lune et le Soleil du même côté de la Terre, donc la partie de la Lune se trouvant en face de nous n'est pas éclairée, et la Lune est complètement invisible dans le ciel, qu'elle traverse en plein jour comme le Soleil.
Mais alors quand la Lune passe devant le Soleil, il doit avoir une éclipse, non ?
Alors on pourrait croire qu'à chaque nouvelle Lune, il y a une éclipse de Soleil, le Soleil masqué par la Lune, et à chaque pleine Lune, une éclipse de Lune, la Lune masquée dans l'ombre de la Terre. Mais ce n'est pas le cas, car l'orbite de la Lune est légèrement inclinée par rapport à l'orbite de la Terre autour du Soleil, dans un plan qu'on appelle écliptique, justement à cause des éclipses. Une inclinaison d'environ 5 degrés. Donc la plupart du temps, la nouvelle Lune passe dans le ciel au-dessus ou en dessous du Soleil, de même pour la pleine Lune par rapport à l'ombre de la Terre, et il n'y a pas d'éclipse à chaque lunaison. Je ne développerai pas plus le sujet des éclipses aujourd'hui, car c'était le thème de notre chronique du 5 mars. S'ils veulent en savoir plus, j'invite nos auditeurs à la réécouter, soit sur le site de O2 Radio ou celui de Constellations et Galaxies. Si on revient sur le cycle des lunaisons de 29 jours et demi, il a servi de base à tous les calendriers, d'où nos mois d'environ 30 jours et nos semaines de 7 jours, qui correspondent à la durée séparant les principales phases, nouvelle lune, premier quartier, etc. Au départ, tous nos calendriers étaient lunaires, comme celui encore utilisé par les juifs ou les musulmans. Le nôtre ayant évolué à l'époque romaine pour mieux faire coïncider les années avec le cycle solaire de 365 jours. En effet, l'observation du changement d'apparence de la Lune dans le ciel est la façon la plus simple de constater le passage des jours et de les compter. On pense même que cette observation a commencé bien avant l'invention des calendriers. En Dordogne, sur le site de l'abri Blanchard, on a trouvé un os gravé recto verso de figures géométriques étranges qui daterait d'environ 32 000 ans. Et d'après les études faites par un expert pour la NASA en 1964, il représenterait l'observation des phases de la Lune sur une période d'environ 6 mois. Comme quoi, les hommes ont été fascinés par le ciel depuis toujours, et je trouve parfois étrange de penser à cet ancêtre des astronomes qui a pris le temps jour après jour de tourner ses yeux vers la Lune et enregistrer à sa façon ce qu'il voyait.
Oui, mais quand on regarde la Lune, on voit toujours la même face. Pourquoi une face visible et une face cachée ?
Alors effectivement, comme nous aujourd'hui, cet astronome de la préhistoire voyait toujours la même face de la Lune. L'autre, la fameuse face cachée de la Lune, ne nous étant jamais visible. Certains croient à tort que cela s'explique par le fait que la Lune ne tourne pas sur elle-même, mais c'est faux. On peut le constater avec une expérience simple que nos auditeurs peuvent essayer. Si on tourne autour d'un repère, par exemple un arbre ou un lampadaire, en le regardant en permanence, comme la face de la Lune qui est tournée vers la Terre en permanence, eh bien on tourne aussi sur nous-mêmes en même temps qu'on tourne autour de l'arbre ou du lampadaire. On fait même exactement un tour sur nous-mêmes pendant qu'on fait un tour autour du repère. C'est ce qu'on appelle la rotation synchrone. Et cela paraissait assez bizarre jusqu'à ce qu'on découvre que d'autres satellites, par exemple de Jupiter ou de Saturne, étaient aussi en rotation synchrone, donc montrant toujours la même face à leur planète. L'explication est assez simple. La face qui est tournée vers nous est plus lourde, si je peux dire, que ce qu'on peut voir avec les grandes zones grises qu'on appelle des mers, et qui sont les traces de chute de très gros astéroïdes, alors que la face cachée n'en a pratiquement pas. C'est ce qu'on a vu sur les premières photos de la face cachée prises par la sonde russe Luna 3 en octobre 1959. Il y a donc un certain balourd dans la rotation de la Lune, et si l'on réfléchit à la façon dont la Terre attire vers elle ce balourd, on comprend que cela peut soit accélérer, soit ralentir la rotation de la Lune en conservant ce balourd au plus près de la Terre. Et au fil de millions d'années, cela a produit le résultat qu'on connaît aujourd'hui, la synchronisation parfaite de la rotation de la Lune sur elle-même avec sa révolution autour de la Terre, toutes les deux en environ 27,3 jours. En réalité, on peut voir un peu plus que la moitié de la surface de la Lune. J'ai rappelé que l'orbite de la Lune autour de la Terre était une ellipse avec les lois de Kepler, et on sait que la Lune avance un peu plus vite sur son orbite quand elle est au plus près de la Terre, le périgée, que lorsqu'elle est plus loin, l'apogée. Donc la rotation qui se fait, elle, toujours à la même vitesse, peut prendre un peu d'avance ou de retard sur la révolution, ce qui nous permet de voir des petits morceaux supplémentaires de la surface sur les côtés, si je peux dire. On appelle ce phénomène la libration, la Lune qui semble lentement osciller de droite à gauche, et cela nous permet de voir en fait 60% de la surface lunaire.
Alors d'accord pour la Lune, mais les marées alors ?
Alors j'ai parlé de l'attraction de la Terre sur la Lune, mais réciproquement, la Lune attire la Terre. Et comme celle-ci n'est formée que d'une petite croûte solide sur une grosse boule molle, plus ou moins en fusion, cela déforme la surface de la Terre. Au niveau des continents, c'est imperceptible, je crois que c'est dans les 10 ou 20 cm. Mais sur la partie la plus molle de la Terre, c'est-à-dire les océans et les mers, la déformation est beaucoup plus importante, avec deux bosses, une en face de la Lune et l'autre à l'opposé, qui provoquent les deux marées quotidiennes, pouvant atteindre plusieurs mètres. En raison du déplacement de la Lune autour de la Terre, les marées ne se succèdent pas à 12 heures d'intervalle, mais à environ 12h25. Cela a été observé par Posidonios au 1er siècle avant Jésus-Christ, et la relation entre Lune et marée a été décrite précisément au 9e siècle par l'astronome perse Albumazar. Pour être complet, l'attraction du Soleil joue aussi un rôle dans les marées, ce qui explique qu'elles sont plus fortes quand Lune et Soleil sont alignés, donc lors de la pleine Lune ou de la nouvelle Lune, et plus faibles quand ils tirent dans des directions différentes, le premier et le dernier quartier. On peut voir facilement cette corrélation entre phase de la Lune et amplitude des marées en consultant une table des coefficients de marée. Et comme le Soleil joue aussi son rôle, la position Terre-Soleil influe aussi sur ces coefficients, notamment quand le Soleil est presque à la verticale de l'équateur terrestre, d'où les fameuses marées d'équinoxe, qui sont généralement les plus fortes de l'année. Ce qu'on peut observer en Gironde, sur la Dordogne, car les marées à plus fort coefficient provoquent le phénomène du mascaret, une vague qui remonte le cours de ce fleuve. Et comme certains essaient de la chevaucher en surf, paddle ou canoë, cela donne l'occasion de réjouissances, notamment au port de Saint-Pardon, sur la commune de Vers. Et c'est surtout en septembre où se tient habituellement la fête de la rivière. Je n'ai pas trouvé de date pour 2025 sur le site de la commune, mais je pense que ça pourrait être le 9 ou 10 septembre quand les coefficients de marée sont les plus forts. À vérifier quand l'agenda de la commune sera mis à jour pour septembre.
Alors j'ai une question, Michel, d'où vient la Lune ?
Alors pour finir, on va parler un peu de l'histoire de la Lune. Lorsque les astronautes américains ont rapporté sur Terre des échantillons de roches lunaires, dont les 300 kilos au total, et qu'on les a étudiés, on a été surpris par leur très grande ressemblance avec des roches terrestres dans leur composition, notamment des roches volcaniques comme des basaltes, et avec d'autres caractéristiques, leur température de formation, leur âge, etc. On en est arrivé à penser que la Terre et la Lune se sont formées ensemble à partir des mêmes éléments. Aujourd'hui, le scénario le plus plausible pour les scientifiques est celui d'un énorme impact d'une petite planète, peut-être de la taille de Mars, contre la Terre toute jeune qui n'était sans doute pas encore refroidie en surface il y a plus de 4 milliards d'années. Les deux planètes auraient fusionné, mais ce choc très violent aurait éjecté aussi beaucoup de débris dans l'espace, tellement vite et loin qu'ils ne pouvaient pas retomber sur la Terre et qu'ils ont fini par se regrouper, par accrétion, pour former notre Lune. La Lune s'est progressivement refroidie, probablement en se contractant, ce qui peut expliquer la présence de grandes fractures à sa surface. Mais quand on l'observe avec de simples jumelles ou un télescope, ce qui est le plus remarquable, ce sont les nombreux cratères et les mers qui occupent toute sa surface et qui sont tous deux des résultats de chocs avec des astéroïdes plus ou moins gros. Les plus petits créant les cratères d'impact, les plus gros fracturant la surface en profondeur avec remontée de magma qui, en se refroidissant, ont produit les grandes plaines grises qu'on appelle mers, parce qu'elles sont plus sombres. En fait, la Lune témoigne du lointain passé plutôt chaotique et violent du système solaire. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. La Terre, toute voisine de la Lune, à l'échelle du système solaire, a été soumise exactement au même bombardement. Et si on n'en voit pas les traces sur nos continents, c'est simplement que la tectonique, les déplacements des continents, renouvellent sans arrêt la surface, effaçant les impacts anciens. Et pour les plus récents, comme celui qui a fait disparaître les dinosaures, c'est l'érosion qui les dégrade progressivement. Pour conclure, on peut dire que la Lune est une chance pour l'apparition de la vie sur Terre, car la présence de ce gros satellite a stabilisé les mouvements de la Terre, évitant des variations trop violentes des climats, et son influence sur la mer avec les marées a peut-être joué un rôle dans l'évolution de la vie, apparue d'abord dans les océans, car avec les zones côtières qui sont alternativement sèches et humides, cela a pu favoriser la sortie d'espèces amphibiennes pour conquérir les continents.
Et merci Michel pour l'histoire de notre Lune. Et nous allons continuer, vous écoutez O2 Radio 91.3, la 125e chronique astro de Michel Favret, et nous continuons avec la chronique Le Ciel du Mois.
Alors comme chaque mois, je renvoie nos auditeurs vers la rubrique Ciel du Mois de la section Astronomie de notre site web, www.constellationsetgalaxies.org, pour voir les cartes du ciel correspondantes, difficile de montrer des cartes à la radio, et avoir plus de détails. Je la mettrai à jour pour septembre, d'ici la fin de la semaine. Avec l'approche de l'équinoxe d'automne du 22 septembre, la durée du jour et de la nuit commence à se rééquilibrer, ce qui permet l'observation du ciel nocturne un peu moins tard. En ce moment, le soleil se couche vers 20h45 et la nuit arrive un peu avant 22h, et le ciel bien noir seulement après 22h30. Fin septembre, on aura gagné encore presque une heure, avec le coucher vers 19h45 et la nuit vers 20h45. Comme nous sommes en plein été, les constellations de la saison dominent toute la partie sud du ciel en début de nuit, même si quelques-unes du printemps persistent encore du côté de l'ouest, notamment le Bouvier et la couronne boréale, dans laquelle on attend depuis près d'un an l'apparition d'une nova qui ajouterait une huitième étoile au demi-cercle que dessine cette constellation. Pour celle de l'été, le repère reste la figure du grand triangle de l'été, formé par trois étoiles brillantes qui apparaissent assez tôt dans le crépuscule. Vega, la plus haute, pratiquement au zénith, c'est-à-dire au-dessus de notre tête, Deneb, la plus à l'est, et Altaïr, la plus basse, permettant de situer leurs constellations respectives de la Lyre, du Cygne et de l'Aigle. Si le ciel est assez noir, on pourra distinguer le long du Cygne et de l'Aigle le ruban laiteux de la Voie lactée, incliné à peu près à 60 degrés, et qui nous conduit vers le sud à deux autres constellations bien reconnaissables, du Sagittaire et du Scorpion. À l'est, ce sont les premières constellations de l'automne qui sont déjà levées, notamment Pégase, bien reconnaissable à son grand carré, et dans le prolongement, Andromède, dans laquelle on peut distinguer l'objet le plus lointain visible à l'œil nu, la grande galaxie M31, distante de 2,5 millions d'années-lumière. Fin septembre, avec le raccourcissement des jours, la situation sera presque la même en début de nuit, avec le triangle de l'été encore plus haut dans le ciel plein sud, Deneb étant devenu plus élevé que Vega. Et à l'est, les constellations de l'automne plus hautes, notamment Pégase et Andromède, avec celle des poissons, située sous Pégase, presque complètement levée. On reparlera du ciel d'automne lors d'une prochaine chronique. Côté planète, il n'y a plus grand-chose à voir dans le ciel le soir, puisque seul Saturne est visible, mais ne se lève que vers 22 heures, donc il faut patienter au moins une ou deux heures pour qu'il soit observable dans de meilleures conditions. Fin septembre, il sera plus haut, dès le début de nuit, et observable plus tôt, vers 22-23 heures. Les autres planètes ne sont visibles qu'en deuxième partie de nuit, voire le matin. En ce moment, les brillantes Jupiter et Vénus se lèvent respectivement vers 3h et 4h30 et restent visibles longtemps dans le crépuscule. Mercure, moins lumineuse, n'apparaît qu'avec le crépuscule vers 6h, ce qui la rend peu facile à observer, et elle disparaîtra progressivement au fil des jours. En fin de mois, Jupiter apparaîtra bien plus tôt, vers 1h30, mais Vénus plus tard, vers 6h. Mars n'est pas visible ce mois. Comme chaque mois, la Lune produira une série de conjonctions en s'approchant des planètes, en commençant par le lundi 8 septembre, où la grosse Lune gibbeuse, presque pleine, se lèvera avec Saturne, les deux astres étant séparés d'environ la largeur de deux doigts bras tendus. Il faudra ensuite patienter jusqu'au mardi 16 pour voir le croissant de Lune s'approcher de Jupiter. Puis ce sera le vendredi 19 qu'un très fin croissant se lèvera avec Vénus vers 5h30. Mais quelques heures plus tard, à 14h, donc en plein jour, on pourra voir la planète disparaître derrière la Lune, dont elle émergera 1h20 plus tard. Si le ciel est clair, cette occultation peut être observée avec un petit instrument, peut-être même dans une simple paire de jumelles, mais pas à l'œil nu. Vénus n'étant pas perceptible en plein jour, sauf dans un ciel d'une transparence exceptionnelle, comme le désert d'Atacama au Chili par exemple. La Lune nous fera un autre phénomène en septembre, puisqu'elle sera éclipsée le dimanche 7. Malheureusement, le spectacle ne sera pas aussi complet que d'autres éclipses lunaires que nous avons eues ces dernières années. En effet, quand la Lune se lèvera vers 20h30, elle sera déjà totalement éclipsée, donc d'une couleur rouge plus ou moins sombre, car l'ombre de la Terre n'est pas noire en raison de la réfraction de la lumière solaire par l'atmosphère. La Lune émergera de cette ombre seulement une demi-heure plus tard, alors qu'elle sera encore très basse sur l'horizon est, à peine 5 degrés de hauteur, soit environ la largeur de 3 doigts bras tendus. Autant dire des conditions d'observation très mauvaises et seulement possibles depuis un site à l'horizon est bien dégagé, idéalement un point situé un peu en hauteur par rapport à tous les obstacles environnement, reliefs, arbres et immeubles. À ce moment se révélera un fin croissant directement éclairé par le soleil et qui va croître progressivement. Il faudra à la pleine lune environ une heure pour émerger complètement de l'ombre terrestre, ce qui l'aura amené à environ 15 degrés de hauteur. Et une heure de plus pour sortir de la pénombre, période pendant laquelle l'éclipse n'est plus vraiment perceptible. Les auditeurs qui ont déjà entendu mes chroniques sur les éclipses savent qu'elles vont généralement par 2 à 15 jours d'intervalle. Et celle-ci ne fait pas exception à la règle, puisque le dimanche 21 septembre, il y aura une éclipse partielle de soleil. Malheureusement, pas visible depuis la France, du moins la métropole, car nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie pourront la voir avec un obscurcissement de 36% au maximum à Nouméa.
Et ils ont de la chance en Nouvelle-Calédonie. Michel, je vous coupe, pardon, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a eu des choses étranges dans le ciel ce week-end.
Oui, alors je terminerai cette rubrique dédiée à l'observation du ciel avec deux messages destinés à nos auditeurs qui auraient regardé la voûte étoilée le week-end dernier. Tout d'abord, pour ceux qui auraient vu un spectacle étrange dimanche vers 22h30-23h, comme des membres de mon club astro Périgourdin, comme un des membres qui me l'a signalé lundi. C'était une sorte de long trait lumineux assez pâle qui aurait traversé le ciel du sud-ouest au nord-est, pour ceux qui connaissent les constellations du Bouvier jusqu'à Andromède, en environ un quart d'heure. Pas besoin d'incriminer les petits hommes verts, car on sait maintenant qu'il s'agissait du dégazage d'une fusée chinoise, Chang'e 8A, tirée vers 21h10 depuis la base de lancement Wenchang, située sur l'île Dainan. L'autre message est plus personnel, car j'ai été témoin samedi soir d'un passage bizarre, alors que j'observais le ciel au télescope avec un autre membre de mon club astro et deux autres personnes. Vers 23h45, un groupe d'une bonne trentaine de points lumineux clignotants sont montés dans le ciel au nord-est, dans Andromède, puis passés presque au-dessus de nous, légèrement au sud du côté de l'Aigle, avant de s'éloigner sous forme d'une ligne presque régulière vers le sud-ouest, du côté du Bouvier. Donc exactement à l'inverse du dégazage de dimanche. Aux jumelles, on a pu constater qu'à côté du feu vert clignotant, plus perceptible par nos yeux en vision nocturne, il y en avait aussi un rouge. Ces feux de signalisation standard montrent bien qu'il s'agissait d'engins humains. On pense à un vol d'une formation de drones en raison du nombre, de l'absence de bruit d'avion et d'une altitude probablement assez basse. Mais comme on n'a pas d'explication de cette observation, je suis à la recherche d'autres témoins, déjà pour déterminer les points de départ et d'arrivée de ce vol. C'est pourquoi je fais appel aux auditeurs d'O2 Radio pour savoir si cet éloignement au sud-ouest aurait pu se prolonger jusqu'au sud de l'agglomération bordelaise, même si Corinne, d'âge 33 que j'ai contactée, n'a rien vu alors qu'elle animait une soirée d'observation publique au château de Villandreau. Merci à ceux qui auraient vu la même chose que nous de le faire savoir à O2 Radio qui me transmettra ou directement à mon numéro qu'on peut trouver sur la page contact de mon site web www.constellationsetgalaxies.org. Sauf imprévu, notre prochaine chronique devrait avoir lieu le mercredi 1er octobre pour permettre à Corinne de venir nous parler des animations prévues pour le jour de la nuit du 11 octobre, car la semaine précédente, elle sera au RACSO, le rassemblement des astronomes amateurs du Grand Sud-Ouest qu'elle préside et auquel j'avais eu le plaisir de participer il y a quelques années, avec la vision assez surprenante d'un véritable champ de télescopes dans le camping du Lot privatisé pour cette manifestation qui connaît chaque année un grand succès. Pour parler du jour de la nuit, une opération destinée à l'information du public sur le problème de la pollution lumineuse, nous aurons probablement aussi avec nous Vega de la Lyre et la SAB, Société Astronomique de Bordeaux, qui viennent régulièrement parler de leurs animations au micro d'O2 Radio.
Et c'est toujours un plaisir de vous recevoir, Michel, ainsi que vos invités. Est-ce que vous avez un message à rajouter en direct aujourd'hui dans ce journal ?
Non, ce que je peux compléter par rapport à ces observations un peu bizarres du week-end dernier, oui, c'est qu'il faut savoir qu'en France, il y a un groupe spécialisé dans l'étude ce qu'on appelle des ovnis, des objets volants non identifiés, hein, quels qu'ils soient. C'est le GEPAN, groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aéronautiques non identifiés. C'est un service du CNRS, un tout petit service, hein, je crois qu'il y a 4 ou 5 personnes, qui enquêtent, des scientifiques, hein, qui enquêtent très sérieusement sur les témoignages qui ont pu être rapportés. Alors en général, ils travaillent à partir de déclarations qui auraient été faites à la police ou à la gendarmerie. D'ailleurs, si j'arrive pas à élucider ce passage bizarre de samedi, je me demande si j'irai pas à la gendarmerie faire une déclaration pour que ça enclenche le processus d'enquête sur cette vision bizarre d'un passage de tous ces points lumineux.
Mais on espère que nos auditrices et auditeurs pourront vous apporter des précisions. Donc n'hésitez pas à nous contacter, hein, sur O2 Radio ou sur le site www.constellationsetgalaxies.org, tout attaché, tout au pluriel, bien évidemment. Merci Michel, on se retrouve alors normalement le 1er octobre.
Voilà, puisque et donc accompagné, comme on le fait souvent quand il y a une opération spéciale à l'échelon national, par les clubs astronomiques de la région de Bordeaux, parce que ce serait pas vraiment intéressant que je parle de ce que je fais moi en Dordogne aux personnes de l'agglomération, aux auditeurs de l'agglomération. Et généralement, c'est Corinne, d'âge 33, qui vient ou elle se fait remplacer si elle n'est pas disponible. Il y a aussi Serge, le secrétaire, je crois, de Vega de la Lyre et quelqu'un de la SAB. Bon, la SAB, je suis pas sûr qu'ils soient très concernés par le jour de la nuit, puisque c'est plutôt les observateurs du ciel, alors qu'eux ont plus une activité de conférence et d'information, disons plutôt scientifique sur l'astronomie.
Eh bien, très bien, Michel. On rappelle quand même le site une dernière fois.
www.constellationsetgalaxies.org. Donc la page contact, si on veut mon numéro de téléphone en cas d'observation bizarre ce week-end, enfin celle de samedi.
Oui.
Et dans la partie, il y a un menu en haut à droite de la page d'accueil, dans la partie astronomie, on trouve à la fois le ciel du mois, donc plus complet et avec des cartes par rapport à ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Et on trouve aussi toutes les chroniques O2 Radio dans l'ordre chronologique inverse, c'est-à-dire la plus récente en premier. Donc celle d'aujourd'hui, je pense que je la mettrai en ligne d'ici soir ou au pire demain. Et avec une petite description du contenu, ce qui permet aux auditeurs qui seraient intéressés de retrouver un sujet. Je pense pas que l'écoute mois après mois de toutes les chroniques serait vraiment intéressante, d'autant plus que toute la partie actualité est complètement périmée au bout de quelques semaines.
Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On pourrait quand même réécouter.
Pourquoi pas? On va faire un marathon voilà. Des chroniques astro d'O2 Radio.
Effectivement. Donc, c'était la 125e chronique astro de Michel Fabré Astronomique. Et on se retrouve donc le mois prochain pour la 126e. Merci beaucoup, Michel.